parabole du jour avec le Père Willem.
Tous frères, pas si simple que cela. Tous frères, oui. L'idée est belle en soi. Tous frères. Car elle suggère une grande proximité de chacun à tous les autres. L'exigence d'un lien au nom duquel pourront être remises en cause barrières, frontières, inégalités, conditions de vie indignes, oppression, etc. N'est-ce pas précisément ce qui a inspiré les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, lorsqu'ils écrivent dans le premier article « Tous les êtres humains doivent agir les uns vers les autres » dans un esprit de fraternité. Mais une telle fraternité sans rivage, déclarative, n'est-elle pas condamnée à demeurer à l'état gazeux ? Autrement dit, à ne jamais pouvoir acquérir une consistance qui la rendrait capable de mettre en cause l'organisation de la vie en société. D'un autre côté, on peut estimer que le phénomène de la mondialisation entraîne une sensibilité plus vive au lointain, obligeant aussi les politiques à en tenir compte. De fait, les nouveaux moyens de communication modifient profondément la conscience que nous avons du sort des autres, nous les rendant beaucoup plus proches, et nous le voyons dans cette actualité de ces migrations, de ces réfugiés qui viennent enrichir notre Europe en train de dormir. Les nouvelles de catastrophes ou de violences à tout ce qui advient à l'autre bout du monde, ces nouvelles de catastrophes ne nous reviennent-elles pas jusque chez nous, réveillant notre attention? Mais des analyses précises montrent que lorsque le spectacle de la souffrance de l'autre n'est pas repris par une parole qui engage, il produit en réalité un effet anesthésiant et instable dans le doute sur la possibilité même d'un agir qui transforme la réalité. Pourquoi ? La simple déclaration de fraternité est-elle impuissante à nous rapprocher les uns des autres? Pour répondre à cette question, l'hypothèse que nous avançons est celle d'une ingénuité par rapport à quelques ressorts extrêmement puissants et peu visibles qui dictent en partie nos comportement. La tradition biblique, à travers la manière dont elle pose la question de la fraternité, montre qu'elle cherche et trouve des voies pour mettre en cause ces réflexes profondément inscrits en nous. Ce faisant, elle ouvre un chemin vers une fraternité ouverte à tous. Mais la percée décisive en la matière est opéré par la figure du Christ qui transforme profondément les rapports aux frères parce qu'il associe étroitement la vie en Dieu à la relation à l'autre en commençant par les plus méprisés des hommes. Si l'on en croit certains penseurs, les êtres humains se rapporteraient les uns aux autres selon deux grands registres dans lesquels nous passerions alternativement. D'un côté, l'individu, toujours soucieux de ce qui le distingue des autres hommes, et qui pour cela prend soin de marquer ses distances. L'homme occupe une place déterminée et sûre, et affirmant son droit à grands gestes efficaces, il écarte de lui tout ce qui lui vient trop près. Il s'y dresse comme un moulin à vent, dans une plaine immense, expressive et animée. Il n'y a rien jusqu'au moulin suivant. La vie telle qu'il la connaît est toute fondée sur les distances, nous dit le philosophe bulgare Elias Canetti. Une des formes de ce souci des distances, c'est la phobie du contact de l'inconnu. Mais, observe également Canetti, dans certains cas, cette phobie disparaît totalement. C'est précisément dans les phénomènes de masse qui, en quelque sorte, abolissent l'individu. Aucune différence ne compte, pas même celle des sexes. Qui que ce soit vous presse, qui que ce soit qui vous bouscule, c'est comme si c'était soi-même. On l'éprouve comme on s'éprouve soi-même. Soudain, tout se passe comme à l'intérieur d'un même corps. Chacun abdique en quelque sorte son soi particulier et donc aussi sa capacité de juger et de choisir pour ne plus exister que comme élément fondu dans un ensemble beaucoup plus vaste. Et ce phénomène de masse se décline de mille manières, quelle que soit sa forme. Une masse produit toujours un effet de puissance redoutable qui peut la rendre dévastatrice. Autre question plus redoutable. Sommes-nous condamnés à osciller entre des comportements où le singulier s'affirme contre les autres, des conduites opposées où le moi n'existe plus, fondé qu'il est dans la masse? Dit en termes triviaux, l'humanité est-elle destinée à être ou bien éparpillée et désagréable, ou bien unie mais violente? Traduit en fonction des enjeux du moment, l'empathie que nous éprouvons pour ceux qui souffrent à l'autre bout de la planète sont-elles le corollaire d'un engourdissement de nos capacités de division, mais surtout de décision et d'action? Nous collerions alors aux autres parce que nous aurions renoncé à tenir notre rôle d'acteur responsable. Et réciproquement, la montée des individualismes que diagnostiquent les sociologues ne serait-elle que le camouflage du triomphe des logiques de masse? Le mot d'ordre de la réalisation de soi ne serait qu'un leurre pour dissimuler des comportements de fait très 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 guéguerres. Mais sommes-nous condamnés à une telle dichotomie? Sinon, quels seraient les chemins qui permettraient d'en sortir? Dans la prochaine émission, nous interrogerons la tradition biblique, car elle donne de quoi réfléchir à ce qui sous-tend ces comportements antagonistes. Et nous terminons par cette merveilleuse prière du théologien protestant allemand, décédé en 1968, Karl Barth. Seigneur, nous déposons devant toi tous nos soucis, afin que tu t'en préoccupes, notre quiétude, afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos péchés, afin que tu les pardonnes, nos pensées, afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection et à la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi.